Plus de 5000 morts en Méditerranée en 2016, déjà plus de 2200 depuis le début de l'année 2017, dont une cinquantaine rien que ces dernières heures. Et encore, ne s'agit-il là que des victimes dénombrées? La Méditerranée est bien devenue la frontière la plus meurtrière au monde. Mais cela n'empêche pas les migrants de tenter de la franchir malgré le danger. Ils sont 100 000 à l'avoir traversée ces 6 derniers mois. La plupart sont arrivés en Italie. Un pays qui menace de fermer ses ports aux bateaux des ONG qui transportent des migrants et qui demande au reste de l'Union européenne un peu plus de solidarité. De son côté, l'agence Frontex, chargée du contrôle des frontières, accuse les humanitaires d'encourager l'immigration clandestine. Alors ce soir sur France Inter, on ouvre le débat à l'avant-veille d'une réunion des ministres de l'Intérieur des 28. Qui doit intervenir en Méditerranée pour éviter de nouveaux drames? Faut-il coopérer avec la Libye pour retenir les migrants? Comment mieux répartir les demandeurs d'asile en Europe? Pour en parler en direct avec nous du Parlement européen de Strasbourg, l'eurodéputée Cécile Kyenge, ancienne ministre italienne de l'intégration, spécialiste des questions migratoires. Bonsoir Cécile Kyenge.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Merci beaucoup d'être avec nous. Avec nous ici en studio à Paris, Corinne Thor, chef de mission France à Médecins sans frontières. Bonsoir à vous Corinne Thor.
Bonsoir.
Je précise qu'MSF vient en aide aux migrants en mer Méditerranée sur des bateaux. Avec nous également Jean-François Corti, directeur des opérations internationales à Médecins du Monde. Bonsoir Jean-François Corti.
Bonsoir.
Médecins du Monde qui est présent en Italie et ailleurs pour s'occuper des demandeurs d'asile. Pas de représentant de Frontex avec nous ce soir, malheureusement. Cela n'a pas été possible suite au report de ce débat qui était initialement prévu vendredi. Pour nous joindre, en tout cas, c'est toujours le même principe, franceinter.fr ou les réseaux sociaux avec le mot-clé Telson. Vous pouvez aussi nous appeler au 01 45 24 7000.
Claire Servageant, le téléphone sonne.
Et tout de suite, un premier appel sur France Inter, c'est Chloé qui nous appelle de Foix. Bonsoir Chloé.
Bonsoir.
Vous avez souhaité intervenir, pour quelle raison?
Voilà, parce qu'il y a beaucoup de problèmes concernant les migrants. Et je retiens la phrase de la dame, la petite phrase « coopérer avec la Libye ». Et moi, je me demandais très exactement pourquoi l'Europe, qui est supposée accueillir et aider les migrants, pourquoi l'Europe ne pourrait pas construire des camps de réfugiés sur les côtes africaines, étant donné qu'on ne peut pas accueillir décemment en France, la chapelle le montre, étant donné que l'Italie maintenant est submergée, étant donné que la Grande-Bretagne n'en veut pas des migrants, étant donné que certains pays d'Europe n'en veulent pas non plus. Enfin, étant donné que beaucoup d'Européens à qui on ne demande pas leur avis s'inquiètent et se demandent ce que vont devenir ces migrants. Vont-ils gonfler encore l'armada des chômeurs en France, par exemple? Voilà.
Donc pour vous, le mieux serait d'éviter qu'ils arrivent en Europe, c'est ça?
Ah oui.
En agissant en amont?
Ben oui, mais c'est évident. Enfin, je sais pas, ça fait quand même 3 ans que ça dure. Et tous les ans, tous les mois, il y a des morts en Méditerranée. Il y a maintenant des émeutes, des rixes entre les Européens. Je sais pas, à la chapelle, il y a que ça, il y a que des émeutes. C'est tendu, il y a des tensions. Enfin, je sais pas, moi. Je veux dire, on a des sous, on est riche, on peut aider, mais on le fait pas dans le bon sens.
Merci Chloé pour cette question. Merci beaucoup d'avoir appelé France Inter. Peut-être Cécile Kyenge en direct de Strasbourg pour commencer. Cécile Kyenge, est-ce que ce discours, vous l'entendez en Italie également et dans tous les pays que vous avez pu traverser puisque vous avez enquêté sur ces questions migratoires, qu'est-ce que vous répondez à Chloé?
Chloé, en réalité, est en train d'exprimer un peu les difficultés dans lesquelles se trouvent la plupart de nos concitoyens et concitoyennes. C'est-à-dire, ils sont devant les... C'est le fait que les politiques qu'on a mis en place jusqu'à présent, la stratégie européenne sur l'immigration et l'asile, n'a pas fonctionné. Et je vous explique pourquoi. On commence avec le premier point, c'est le grand pilier, c'est le règlement du Dublin. Le règlement du Dublin impose à tous les États membres de pouvoir maintenir dans leur pays, c'est-à-dire les pays frontaliers comme l'Italie, comme la Grèce, et de pouvoir tenir dans dans leur pays, les migrants, et sans pouvoir mettre en acte la libre circulation des personnes. Or, on sait que le plus grand acquis en Europe, c'est la libre circulation. On devrait le faire aussi sur ce qui concerne le demandeur d'asile. Or, jusqu'à présent, on a énormément de difficultés. Donc, le fait que l'échec de beaucoup de politiques migratoires a un impact aussi sur la population. Les gens ont l'impression, donc c'est une perception, les gens ont l'impression que nous sommes envahis. Or, en réalité, on accueille moins que beaucoup de pays qui sont en difficulté. On peut prendre le Liban, on peut prendre des pays africains qui accueillent beaucoup plus que l'Europe. Malheureusement, les politiques d'intégration et la politique qui a été mise en place est mise en difficulté par la crise de solidarité entre les différents États membres. Moi, je crois que à la dame, je pourrais bien répondre en disant que l'Europe est capable d'accueillir. L'Europe est capable d'appuyer beaucoup plus de migrants que ce qui arrive sur le continent. Ce qui manque, c'est la volonté politique, la volonté de pouvoir mettre en place des politiques d'intégration. Il y a des bons modèles, des bonnes pratiques qu'on peut partager entre nous. Une approche holistique, mais pas celui de fermer les frontières.
Merci Cécile Kiyenge. Jean-François Corti, vous avez entendu ce que disait Chloé, la France est saturée, elle nous dit, le quartier de la Chapelle à Paris est saturé. Pourquoi accueillir encore des migrants venus d'ailleurs ?
Alors, c'est très important de rappeler que aujourd'hui, il y a près de 65 millions de déplacés dans le monde et que depuis 2-3 ans, on voit une arrivée de migrants sur le territoire européen et on estime que d'ici fin 2017, ce sera environ 2 à 3 millions de personnes qui sont arrivées pour un continent qui compte près de 500 millions d'habitants et qui est l'un des plus riches du monde. Donc on n'est pas du tout sur une phase d'invasion telle que le discours classique populaire veut bien l'entendre. Ça, c'est une fausse représentation. Et de fait, ça attise des peurs ou des inquiétudes légitimes telles que vient de l'évoquer votre auditrice. Par ailleurs, elle l'a rappelé, la France est un pays riche et potentiellement on utilise mal nos richesses. Ce que l'on sait, ce que l'on observe depuis ces 3 ou 4 dernières années notamment, c'est que les autorités européennes et notamment les autorités françaises assument politiquement de ne pas accueillir dans de bonnes conditions les migrants. Lorsqu'on est la 6e puissance économique mondiale, donc on a la capacité logistique, l'ingénierie pour pouvoir donner à manger à des migrants, les loger, les soigner, leur proposer, leur expliquer leurs droits potentiels pour qu'ils puissent faire une demande d'asile ou reconsidérer leur parcours migratoire. On a la capacité de faire ça, mais les autorités françaises, et on l'a vu sur La Chapelle, on l'a vu sur Calais et Grande-Synthe, ont décidé toujours de répondre de manière sous-calibrée par rapport aux besoins. Et ça, c'est dramatique. Pourquoi ? Parce que d'abord, ça laisse des milliers de personnes, dont des femmes et des enfants et des mineurs dans la rue, exposés aux risques de la rue, avec des risques de mortalité importantes. Et deuxièmement, ça renvoie, et c'est l'image importante que notre auditrice amène, ça renvoie l'image d'une puissance publique qui est faible et qui n'est pas capable de gérer correctement un problème qui certes amène quelques tensions sanitaires et sociales, et c'est normal parce que l'arrivée de quelques milliers de personnes, ça peut induire des tensions, mais on ne devrait pas être aujourd'hui dans une configuration de crise humanitaire telle qu'on peut la vivre en France, et cela s'est créé de manière délibérée par les autorités françaises et c'est tout à fait condamnable, et ça a un impact sur les représentations qu'on se fait ensuite des migrants, parce qu'effectivement lorsqu'on est dans les logiques de survie, parfois il s'agit de pouvoir se battre pour trouver de l'eau propre ou de la nourriture, ça crée des tensions, voire des bagarres entre communautés. Donc, les autorités françaises ont une lourde responsabilité dans le fait de mettre des personnes en danger, de renvoyer sur eux une image péjorative et d'attiser la peur de nos concitoyens vis-à-vis de ce qui ne relève pas d'une menace, mais d'un problème qu'il faut prendre à bras le corps, et on l'espère et on le souhaite avec beaucoup plus d'humanité.
Alors, Corinne Thor, vous faites partie de Médecins Sans Frontières. Moi, j'ai une question sur la responsabilité des États par rapport à ce qui se passe actuellement en Méditerranée, parce qu'on a des naufrages pratiquement quotidiennement. Vous, MSF, vous êtes présent sur certains bateaux, notamment sur l'Aquarius, mais vous avez aussi affrété, je prends un bateau qui appartient à votre organisation. Est-ce que, d'après vous, c'est un travail qui relève des ONG d'aller secourir les naufragés, ou est-ce que ça devrait relever des États ?
Ah ben non, clairement, c'est pas... C'est... absolument pas un travail qui relève des ONG. Nous sommes obligés de le faire parce qu'il y a un manquement de la part de la communauté européenne à prendre en charge et à mettre des dispositifs de sauvetage en mer Méditerranée. Nous avons été obligés de le faire. C'est pas franchement le savoir-faire de Médecins Sans Frontières. Nous le faisons par obligation, pour sauver des vies, c'est notre mandat. Nous alertons sur le sujet, nous le faisons de manière très posée et en accord systématiquement avec les autorités maritimes.
Italienne ?
Italienne, absolument. Et aujourd'hui, quand on entend le fameux débat sur la présence des ONG en mer Méditerranée a un impact direct sur une arrivée massive des migrants...
En gros, vous favorisez les arrivées, c'est ça ?
C'est ce qui est dit. Là, je crois que c'est vraiment une vision très, très petite de la réalité. Aujourd'hui, tous ces réfugiés partent de chez eux. On oublie quand même le parcours. Partent de chez eux parce qu'il y a des conflits, parce qu'ils sont en danger pour différentes raisons, arrivent en Libye, finalement sont même pratiquement prêts à mourir en mer parce que la situation en Libye est catastrophique. Donc nous intervenons pour sauver ces naufragés. C'est un devoir, c'est le droit maritime d'autre part, et il est absolument impératif que l'État, nos États, que la communauté européenne se mobilise pour mettre tous ces dispositifs en place et non pas incriminer les ONG sur ce débat-là. C'est déplacer le débat.
Est-ce qu'on peut quand même poser à ce stade la question de ce que fait Frontex en Méditerranée actuellement, cette agence qui est chargée du contrôle des frontières? Est-ce que son rôle, c'est d'aller recueillir des naufragés, ou quel est son rôle précisément?
Alors là, vous me posez une colle, parce que j'ai du mal à savoir exactement ce que fait Frontex, pour être tout à fait honnête. Je sais que nous avons énormément de difficultés en termes de collaboration avec Frontex, puisqu'on collabore pas, quelque part. Et ils sont absolument pas transparents sur ce qu'ils nous donnent comme information. Je pourrais pas vous en dire plus sur le sujet, je vous dirais des bêtises, sachant que c'est plutôt nos collègues italiens qui pourraient nous donner toutes les informations sur ce sujet.
On va demander justement à Cécile Kiyenge, qui est à Strasbourg, le rôle de Frontex. Cécile Kiyenge, quel est-il précisément? C'est un petit peu ambigu, non?
Bon, Frontex est là, c'est pour contrôler les frontières, mais c'est contrôler aussi, dans ce cas-ci, la mer Méditerranée. Mais il a aussi le rôle, et ça, c'est grâce au Parlement. Et le Parlement a voulu, à travers un travail qu'on a fait l'année passée, d'ailleurs, j'ai été rapporteur d'une résolution qui était l'approche holistique pour une meilleure gestion de l'immigration et de l'asile. Au premier point, il y avait recherche et sauvetage. On a demandé et à la Commission et aux États membres de pouvoir mettre l'action de recherche et sauvetage dans toutes les activités de l'Union européenne, y compris dans les activités de Frontex. Donc, dans le passé, Frontex n'avait pas ce rôle, mais aujourd'hui, à part le rôle de contrôle des frontières, mais il y a aussi le fait de pouvoir de recherche et sauvetage. En plus de ça, aujourd'hui, il y a pas, Frontex est devenu une agence assez grande, puisque c'est devenu l'agence de la garde côtière et de frontières. Et ça aussi, c'est à l'année passée que, disons, cette agence a été renforcée, créée. Mais là, je veux dire que les États membres étaient tous partants. Il y avait l'accord de tous les États membres. Ce qui manque aujourd'hui, c'est pour intervenir un peu à ce qui a été dit par les deux autres intervenants, c'est la crise de solidarité entre les différents États membres. Puisque quand on parle de l'Europe, il faut voir par là des propositions qui sont bien concrètes, qui partent du Parlement européen, puisque moi je fais partie du Parlement. Il y a la Commission aussi qui fait des propositions, mais le Parlement européen l'année passée a fait des propositions assez concrètes et ce qui n'a pas été le cas du Conseil, puisque le Conseil, politiquement, devrait normalement mettre en place toutes ces propositions de moyen, court et long terme, c'est-à-dire politique d'intégration, changer toutes les réformes du paquet asile à partir du règlement de Dublin, arriver jusqu'à la gestion de l'immigration, disons, en transit, mais intervenir aussi sur les causes profondes qui déplacent les migrants. Ça n'a pas été le cas, puisqu'il y a beaucoup d'États membres qui refusent de pouvoir intervenir sur ça. Donc, le problème qu'on a, ce ne sont pas les propositions qui manquent, ce n'est pas le fait d'arriver à des propositions concrètes. Ce qui manque, c'est la politique, la volonté politique qui nous pousse.
Cécile Kyenge, une petite question, parce que vous êtes italienne. L'Italie, la semaine dernière, a menacé de fermer ses ports aux bateaux qui recueillent des migrants. Ça veut dire quoi ? C'est une façon de faire pression, de faire en sorte que les gens en débattent, ou l'Italie a raison de faire ça ? Qu'est-ce que vous nous en dites ?
Bon, dire que l'Italie a raison, c'est un peu...
Disons, je vais pas vous faire dire ça.
Ah ouais, non, moi, j'ai beaucoup travaillé pour recherche et sauvetage et des gens en mer, donc c'est un peu compliqué de pouvoir aborder ce thème, mais je dois dire que l'Italie en ce moment est énormément en difficulté. Et je me rappelle, je peux vous dire mon expérience personnelle, peut-être là, je peux être même assez large, quoi, puisqu'en 2013, moi, j'étais ministre à l'intégration, on se trouvait presque dans les mêmes conditions et ça n'a pas changé. Les États membres se renferment toujours sur eux-mêmes à travers cette crise de solidarité. L'Italie, devant le nombre qui augmentait des morts dans la mer Méditerranée, a lancé un programme. C'était le programme qui s'appelait Mare Nostrum, recherche et sauvetage. Et c'est parti de là, en 2013, en faisant voir, comprendre à l'Europe que ce n'était pas une question qui regardait l'Italie à elle seule, mais c'était une question d'une responsabilité qui devait être partagée entre les différents États membres. C'était sous ma responsabilité, j'étais ministre de l'intégration sous le gouvernement l'État. Avec tout le gouvernement, on a voté pour ce projet qui, malheureusement, n'a pas trouvé un suivi très fort dans les activités, des différents États membres. Mais sinon, dans des opérations comme Opération Sophia, dans d'autres opérations comme la garde côtière et frontière, et on a demandé que ces objectifs puissent être inclus là-dedans. Et sur ça, je soutiens entièrement les ONG. Moi, je les soutiens parfaitement, puisque les ONG sont en train de faire le travail qu'aurait dû faire l'Europe, différents États membres. Donc aujourd'hui, on ne devait pas condamner les ONG, mais on devait plutôt partir de la bonne pratique qu'ils ont mis en acte pour pouvoir sauver les gens, pour aller au-delà. Alors là, c'est là que les États membres n'arrivent pas à être ambitieux.
Merci beaucoup Cécile Kyenge. On repart au standard de France Inter. Eric nous appelle du Var. Bonsoir Eric.
Oui, bonsoir. Moi, je voudrais attirer un petit peu l'attention sur le cas spécifique de Vintimille, parce que je fais partie très modestement des associations qui viennent en aide aux migrants à Vintimille depuis un an. Depuis un an, il y a des associations, notamment dans la vallée de la Roya, qui servent 5 à 600 repas par jour. Des migrants qui sont bloqués là depuis un an, quand ils arrivent à passer la frontière, on les ramène à Vintimille. Il y a des centaines de policiers qui sont au péage de la Turbie. Ça coûte des millions d'euros sur l'année. C'est vraiment un gaspillage pour quelques centaines de migrants. Je ne comprends pas comment on arrive à ne pas s'organiser. Quand on pense qu'il y a des associations comme Roya Citoyenne qui font l'effort de venir et qui ont des tracasseries permanentes, là, ça s'est un petit peu amélioré. Mais pendant 6 mois, la mairie de Vintimille avait interdit la distribution de repas pour les migrants. Alors, on comprend bien que la présence de plusieurs centaines de migrants sur Vintimille pose un problème. Mais je ne vois pas pourquoi ces 600 migrants ne pourraient pas être répartis. On gaspille de l'argent d'un côté sous prétexte de vouloir rassurer la population. La jeune fille qui a téléphoné 2 fois, je ne sais pas quand est-ce qu'elle a rencontré des migrants, mais c'est des jeunes qui ont 20 ans, qui ont passé 2 ou 3 ans dans le désert, dans des conditions lamentables pour arriver ici. Et de toute façon, ils sont ici. Donc pourquoi ne pas organiser humainement leur arrivée ? Moi, franchement, c'est un truc qui me dépasse complètement. Et je voulais vraiment tirer mon chapeau à ces associations qui font un boulot énorme et qui ont énormément de besoins, parce qu'au même titre que les SDF qui meurent plus l'été que l'hiver, en ce moment, avec les grosses chaleurs, c'est énormément difficile de venir en aide. Et il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui sont en vacances. Et donc, il y a des difficultés pour approvisionner. Mais moi, je ne comprends pas l'attitude de nos gouvernements. Le gouvernement italien, d'un côté, est bloqué. Le gouvernement français accumule des policiers à la frontière. On fait des contrôles dans les gares. On contrôle les camions. Dès qu'il y a un camion qui passe la frontière à la Turbie, il est contrôlé. On voit une 50aine de policiers. Ça nous coûte les yeux de la tête. Alors qu'organiser la venue de 500 ou 600 migrants dans la 6e puissance mondiale, je vois pas où serait le problème. problème. Moi, je suis assez révolté de l'attitude de la France par rapport, soi-disant, le pays des droits de l'homme.
Merci beaucoup, Eric, pour cet appel. Corinne Thor, de Médecins Sans Frontières, vous souhaitiez réagir?
Oui. Donc moi, je remercie cet auditeur d'alerter sur cette situation que nous confirmons très clairement, mais nous nous trouvons en fait devant un cas de figure qui est quand même assez incroyable et qui revient à la loi Dublin d'ailleurs aussi. C'est-à-dire que les Italiens sont débordés. Ils ont vu une augmentation, ils ont doublé le nombre de réfugiés, migrants qui sont arrivés sur leur territoire depuis 2015. Ils sont complètement dépassés, ils font tout ce qu'ils peuvent, et d'où le fait qu'aujourd'hui, il y ait une pression de la population italienne, très clairement comme on le voit en France, hein, qui en a assez de voir autant de migrants arriver en Italie, qui commencent à s'opposer à cette politique-là. À la Roya, il y a effectivement la Roya citoyenne qui œuvre chaque jour. Ce sont des citoyens lambda qui sont présents donc à la frontière et qui se retrouvent obligés de prendre en charge tous ces migrants qui finalement arrivent à passer par les montagnes grâce à cette association, à ces citoyens. Ils les hébergent, ils les accueillent, ils les nourrissent. Et ils se font eux-mêmes, finalement, arrêter aussi par la police, puisqu'il y a des pressions très très fortes. Avec,
il y a eu des procès d'ailleurs.
Il y a toujours des procès en cours, hein, soit parce qu'on les traite de passeurs, soit parce qu'ils hébergent, etc. Côté Vintimille, nous y étions il y a peu de jours, quelques jours. Très clairement, la situation effectivement n'est pas bonne, n'est pas saine. La police a refoulé 300 migrants du côté français. Immédiatement, la police a renvoyé 165 migrants. Nous sommes toujours en train de chercher les autres. Donc il y a des parcours qui deviennent de plus en plus compliqués puisqu'ils ont peur de passer par la montagne, de passer par cette frontière, donc ils remontent. Aujourd'hui, très clairement, cette politique de l'État qui est de repousser tout le monde en Italie ou de ne pas accueillir les personnes qui rentrent, on ne respecte pas le droit international déjà, on a exactement la même situation au niveau des mineurs, on ne leur donne pas la possibilité de rentrer sur le territoire français, on les renvoie directement côté italien, c'est scandaleux, ce n'est pas normal, et toutes les ONG présentes en France, ainsi que les associations, aujourd'hui dénoncent cet état de fait et demandent des lieux de transit, des lieux de répit inconditionnels pour toutes les personnes qui arrivent en France.
Jean-François Corti, une petite question quand même, un peu de géopolitique. Comment se fait-il qu'il y ait un tel afflux aujourd'hui en Méditerranée centrale, donc sur l'Italie, des bateaux en provenance de Libye? Avant, il y a deux ans, c'était plutôt du côté de la Méditerranée orientale, du côté en face de la Grèce. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la Libye le gros problème?
Alors, il y a plusieurs déterminants qui peuvent expliquer ces phénomènes. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est qu'aujourd'hui, ces prises de risques et ces mortalités et ces morts, notamment en mer, elles sont la conséquence d'une politique de fermeture de l'Europe avec ce qu'on appelle une diminution des voies légales. C'est la possibilité d'arriver dans des conditions qui sont plus sûres pour des personnes qui sont déterminées dans tous les cas à fuir des zones de conflit, d'ultra-pauvreté, et on le rappelait, même s'il y a parmi ces personnes des migrants économiques, ceux qui sont passés par la Libye ont été violés, torturés, et donc n'ont qu'une seule espérance, c'est de quitter ce pays en se jetant sur des bateaux souvent très bancals. Et que ce que l'on a vu, c'est une fermeture de différents passages, notamment la voie des Balkans, confirmée par un accord turco-européen en mars 2016, qui a vu la dernière frontière entre la Grèce et la Macédoine se fermer, et donc des passages qui ont diminué, et des tentatives qui se sont plutôt focalisées sur la voie maritime, et d'ailleurs dans les bateaux qui viennent notamment de la Libye, parfois de l'Égypte, il y a des populations subsahariennes, mais il y a aussi des Libyens, et puis il y a des familles syriennes aussi, des Égyptiens, des Afghans, des personnes qui viennent du Bangladesh. Donc on observe bien une diminution de ces voies légales, et c'est donc la conséquence d'un choix politique assumé des Européens de fermer leurs portes qui induit des prises de risques et des mortalités. C'est important de revenir sur la situation de la Roya, parce que Médecins du Monde, comme d'autres associations, nous sommes en appui à des initiatives locales qui sont importantes, comme le rappelait ma collègue de MSF. Et ça renvoie à deux problématiques. D'abord, un décalage entre le discours discours officiel de la France vis-à-vis de l'Italie et la réalité. La France dit on est solidaire de l'Italie et il faut être solidaire. Dans la réalité, beaucoup de migrants sont attrapés à Menton, à Nice ou à Toulon ou ailleurs et sont renvoyés directement en Italie, mineurs isolés compris. Donc il y a un décalage entre le discours et la réalité. Et donc ce besoin, comme on le rappelait, de solidarité vis-à-vis des premiers pays d'accueil, notamment que sont la Grèce et l'Italie, il est réel. Les accords de réadmission qui avaient été discutés il y a 2 ans et qui prévoyaient de relocaliser depuis la Grèce et l'Italie près de 160 000 personnes est un échec total. Les Européens ne jouent pas la carte de la solidarité, non seulement pour les migrants, mais pour les pays européens en eux-mêmes. Et donc, il y a une crise plus de la solidarité et de l'accueil qu'une crise de la migration en tant que telle. Les mots sont importants. Et dans ces conditions, les Italiens sont dans un rapport de force avec leurs collègues européens, avec même l'idée potentiellement de mettre sur la table la possibilité de fermer certains ports, ce que l'on espère pas possible pour diverses raisons, mais qui amène les Français notamment à prendre plus de responsabilités. Et le deuxième niveau qu'il faut pointer du doigt, c'est toute cette opposition entre certaines initiatives positives d'accueil créées par des citoyens français et une logique politique qui met en avant une forme de criminalisation de l'aide avec le fameux délit de solidarité, et des personnes sont mises en procès dans la Vella Roya, comme on a pu le voir aussi dans d'autres parties de la France, donc à aller, parce que ils seraient en situation potentiellement d'aider des personnes qui ont besoin de répondre à encore une fois à des enjeux, à des besoins vitaux. Et ça, c'est quelque chose à noter dans un certain virage rhétorique. Souvenez-vous, dans les débats qu'il y a aujourd'hui, on incrimine potentiellement les ONG en mer parce qu'elles auraient potentiellement un rôle de connivence avec les passeurs et qu'elles joueraient un phénomène d'appel d'air, alors que les organisations pour seul objectif de sauver des vies, il n'y a pas d'autre agenda. Et puis on a pu entendre le ministre de l'Intérieur, Monsieur Collomb, dernièrement lors de sa visite à Calais, rappeler que les associations qui travaillent, les associations humanitaires, feraient mieux de regarder ailleurs, si je reprends ces termes, que ce qui se passe sur la région de Calais. Ça veut dire en gros que, et je pense que c'est une stratégie politique assumée, qu'on veut détourner de la discussion et des débats les sujets de fond pour pointer du doigt de fausses responsabilités et amener des polémiques sur des acteurs qui n'ont pour vocation que d'amener un peu plus d'humanité et d'essayer de compenser le vide d'humanité qu'aujourd'hui les Européens et les Français ont. Et que c'est une manière de se détourner des vrais problèmes. Et les vrais problèmes, c'est quoi? C'est diminuer les risques, c'est plus de solidarité avec l'Italie et la Grèce, c'est plus de voies légales, c'est plus de sauvetage en mer, mais ça, les Européens ne veulent pas en parler, et c'est un fiasco, une perte d'humanité qu'il faut pouvoir dénoncer.
Voilà, et c'est aussi peut-être la question de la situation dans certains pays. Marc a une question, il nous appelle de Gemnos, et on demandera à Cécile Kiyenge de lui répondre. Bonsoir Marc.
Oui, bonsoir.
C'est à vous, bienvenue.
Ah oui, pardon. Oui, je viens d'entendre un mot là qui était le vide d'humanité. Ben effectivement, je pense que c'est effectivement ce dont on touche du doigt et que ça nous permet d'être amnésiques, c'est un petit peu sur nos responsabilités, parce que bon nombre de réfugiés et de demandeurs d'asile viennent de pays que nous avons déstabilisés volontairement ou associés aux Anglais ou aux Américains pour des raisons différentes, des pays dans lesquels nous ne sommes pas intervenus peut-être, mais nous sommes intervenus de manière indirecte. Il s'agit de l'Afghanistan, de la Syrie, de la Libye et j'en passe. On oublie quand même là-dessus que quand même la Turquie a 2 millions de réfugiés, le Liban en a 1 million, c'est-à-dire pratiquement l'équivalent de sa population, la Jordanie en a 700 ou 800 et d'autres pays en ont pas mal. Je suis quand même surpris que l'Europe, qui a plus de 300 millions d'habitants, ne puisse pas admettre un certain nombre de réfugiés, et que d'autre part... La mémoire est courte puisque, comme vous disiez, ceux qui ferment les frontières le plus volontiers, comme les Hongrois, ont oublié qu'en 56, quand les Russes ont envahi Budapest, ils ont été contents effectivement d'être admis en Autriche, en France, en Allemagne et dans d'autres pays.
Merci Marc. Oui, voilà, je vous laisse finir et puis je vous presse un petit peu parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps.
Bien sûr. Et le seul pays, je veux dire, qui a quand même une politique en Europe, c'est quand même l'Allemagne, parce que, bien sûr, elle a quand même la mémoire d'avoir eu 16 ou 18 millions de réfugiés à un moment donné.
Merci beaucoup Marc. Cécile Kiyenge, vous êtes toujours en ligne?
Oui, je suis là. Oui,
vous souhaitiez peut-être répondre à Marc sur ce point?
Oui,
les
exactement.
Pays qu'on est allé déstabiliser, ça existe aussi. Et puis il y a la situation de bon nombre de pays d'Afrique, hein, que vous connaissez particulièrement bien, parce que tous ceux qui arrivent en Italie en ce moment viennent pour l'essentiel des pays africains, que ce soit l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique de l'Est.
Oui, c'est pourquoi quand on parle aujourd'hui on parle du fait que l'immigration, il y a beaucoup de morts, c'est un thème d'urgence, mais c'est pas ça. On doit sortir de cette logique et commencer à regarder le phénomène migratoire comme un phénomène, et je le dis bien tout haut, ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui, ça ne va pas s'arrêter demain. Donc on peut lutter comme on veut, on peut fermer toutes les frontières comme on veut, mais il faudrait qu'on se mette d'accord pour commencer à penser à une bonne politique sur comment gérer le phénomène migratoire. Par là, je veux dire qu'il faut commencer par regarder quelles sont les causes profondes qui poussent les gens à pouvoir laisser leur pays, à pouvoir quitter leur pays, à la recherche des fois d'un pays là où il y a la paix, la stabilité et économiquement pouvoir chercher un travail. Alors, quand on commence à analyser tout ça, on se rend compte que la plupart des gens fuient pas seulement la guerre, puisque quand vous écoutez des discours dans le média, la radio, un peu partout, les gens disent les réfugiés, ce sont des gens qui fuient la guerre. Mais ce n'est pas seulement ça. Ce sont des gens qui peuvent fuir le changement climatique. Ce sont des gens qui sont en train de fuir aussi la pauvreté. Et là, à un certain moment, on doit commencer à se demander, est-ce qu'on doit ouvrir nos portes seulement aux gens qui sont en train de fuir les persécutions ou bien les discriminations? Moi, je crois qu'on doit ouvrir les portes à toutes les personnes qui sont en train de fuir ces causes profonde, puisque si on n'intervient pas à ce niveau-ci, et la lutte contre le terrorisme, les instabilités politiques, puisqu'il y a aussi ça, il y a des personnes qui fuient les instabilités politiques, les dictatures, et ça devient compliqué. On commence à mettre de côté des citoyens, donc des réfugiés de série A, des réfugiés de série B, ou soit des migrants de série A, des migrants de série B, et ça ne peut pas avancer de cette façon-là. Donc nos politiques doivent aussi être orientées vers l'intervention des causes, des solutions sur les causes profondes. C'est à moyen et long terme. Et je crois que notre, disons, Marc, qui est intervenu, a voulu justement intervenir sur ce point-là, c'est-à-dire aller voir comment l'Europe peut accompagner tous ces pays à pouvoir développer des politiques, à pouvoir investir sur des politiques de développement, sur la lutte contre tous les facteurs que je viens à peine de citer, et rappelons que l'Europe est née sur une terre de liberté, et on ne peut pas commencer par nier ces libertés par les gens qui sont en train d'arriver sur notre territoire, d'autant plus que nous ne sommes pas envahis. On
Merci.
Accueille moins que beaucoup d'autres pays.
Merci Cécile Kiyang. Et Mathias nous appelle de Toulouse. Bonsoir Mathias.
Bonsoir et tout d'abord, merci pour d'une part la cordialité de tout votre personnel, des journalistes et des personnes techniques, et pour la qualité votre journalisme. Voilà.
Eh ben merci Mathias, ça fait toujours
Et
plaisir.
voilà. En fait, comment dire, au niveau écologique, la situation est catastrophique, puisque une tribune, par exemple, qui vient de sortir cette semaine dans la revue Scientifique Nature, montre que nous avons 3 ans, globalement, pour agir sur le réchauffement climatique. Sinon, nous allons à un chaos planétaire dont nous ne sortirons sans doute, l'espèce humaine ne sortira sans doute pas vivant. Au cours du 21e siècle. Si on rajoute à ça le problème de l'effondrement de la biodiversité, qui est encore plus grave, en fait, nous avons autour de nous, en Europe, qui est finalement le continent qui va être le plus épargné, sans doute, selon les modélisations, par les hausses de température. Nous allons avoir une ceinture d'États, de continentales, que d'ailleurs Jean-Christophe Victor, dans le dessous des cartes, avait déjà souligné il y a plus d'une décennie, d'États qui vont être non seulement sous pression...
Mathias,
au niveau des...
je vais
oui,
être obligé de vous presser un petit peu parce qu'il y a déjà 53 bien tassés, là.
En gros, ça va être une catastrophe écologique d'ici 10 à 20 ans. Pourquoi l'Europe, pourquoi les États européens ne s'unissent pas pour une vraie politique qui est d'accueil, comme disait votre intervenant précédent, et de lutte véritablement contre le désordre écologique.
Eh ben merci Mathias pour cette question. Cécile Kiyenge, pourquoi les Européens ne s'unissent pas à cette question?
Oui, c'est un peu la question qui est rentrée depuis le début. Il y a une crise profonde de solidarité entre les différents États membres. Je rappelle que dans le traité de fonctionnement de l'Union européenne, on a d'ailleurs ce principe, c'est-à-dire solidarité et partage équitable de responsabilités, même au niveau financier. Malheureusement, ça n'en est pas, nous ne sommes pas là. Les États membres, nous vivons dans une logique électoralistique. Les gens pensent qu'il faut gagner à tout prix, il faut gagner n'importe comment. moment. Donc, on utilise des thèmes qui sont aussi délicats et sensibles, qui constituent le défi pour le futur, pour essayer de faire la propagande électorale. Et on vit dans beaucoup de pays, y compris mon pays, l'Italie, la France et d'autres pays, et éternellement dans des campagnes électorales. Et alors, on utilise ces thèmes pour communiquer. On communique mal et je crois que ça crée aussi cette perception qu'il y a une invasion. Les États membres, de leur côté, ne sont pas capables de pouvoir aller au-delà de leur égoïsme national. Et je crois que c'est sur ça qu'on doit beaucoup jouer. Et ça a un impact sur la politique commune. On n'a pas une politique commune, faute du fait qu'on n'a pas une politique étrangère commune, là où tous les États doivent prendre leurs responsabilités pour pouvoir intervenir.
Et pour se mettre d'accord. Moi, j'ai une question, Corinne Thor, de Médecins sans frontières, puisque vous êtes sur les bateaux en Méditerranée, que vous approchez des côtes libyennes et qu'il y a cette question des passeurs qui est récurrente et qui revient. Nous avons Elora sur Twitter qui nous interpelle et qui nous dit « Prenez-vous-en plutôt à tous ces passeurs qui s'engraissent sur le dos des migrants et cessez de nous culpabiliser, la solution n'est pas chez nous. » Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport aux passeurs? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas jouer leur jeu, après tout?
Eh ben, il faudrait avoir une politique d'accueil qui soit digne de ce nom, c'est-à-dire que si on ne fermait pas nos frontières, si nous dimensionnions tous les dispositifs, aussi bien en France, en Italie, en Europe, si on acceptait que tous ces migrants et réfugiés demandent l'asile là où ils le souhaitent et non pas leur imposer, vu le nombre, parce qu'effectivement le nombre n'est pas si catastrophique que ça, il n'y aurait pas de passeurs. Le fait de ne pas mettre à disposition tous ces dispositifs et d'avoir une politique qui est très clairement à l'encontre d'un accueil de ces migrants démultiplie les passeurs. Et finalement, qui est en danger? Ce sont encore les réfugiés et les migrants. Tout simplement. Donc c'est un faux débat. Les passeurs, on peut pas les pister, on peut pas les chercher. Faisons en sorte que notre politique internationale et nationale soit conforme à l'accueil.
Jean-François Corti.
Moi, je dirais que si on est sur des propositions un peu globales, il y a deux niveaux de réponse. Il y a d'abord répondre à l'urgence, aux morts que l'on observe en mer, mais aussi dans les différents déserts lors de la trajectoire. Ces morts qu'on ne voit pas et qui se comptent par centaines, voire par milliers, dans le désert libyen, nigérien et sur différentes trajectoires. Il faut répondre à cette urgence, et donc voilà, augmenter les sauvetages en mer, travailler sur plus de solidarité européenne, améliorer la qualité de l'accueil avec plus de dispositifs de premier accueil en France, tels que ceux qu'on a pu avoir sur Paris et à un certain temps sur Calais. On peut le faire, c'est faisable, c'est pas compliqué, on n'est pas dans un délire d'opérationnalité où on passerait tout le budget de l'État français sur ces questions-là.
Pardonnez-moi, est-ce qu'il faut aller en amont? Par exemple, Frontex a ouvert une agence, je crois, au Niger. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'il faut aller jusque-là?
Il y a tout un tas de débats. Alors, ce sera sur les éléments plus long terme autour des questions de coopération, mais aussi de représentation qu'on a sur la migration. Il y a des débats autour de ce qu'on appelle la gestion externalisée de l'asile. C'est-à-dire aujourd'hui les Européens qui n'ont pas de soucis à pouvoir dealer avec des États qui ne respecteraient pas les droits fondamentaux. Je pense à l'Érythrée ou d'autres pays où on s'interdit pas de renvoyer des migrants vers ces pays-là. On parle aussi de pays sûrs. Alors, je pense à l'Afghanistan, où les Européens n'ont pas peur de faire des charters pour l'Afghanistan, alors qu'on sait très bien que la question de cet État et de l'insécurité est majeure et que ce n'est pas un pays sûr. Ce que je veux dire sur deux points un peu fondamentaux, c'est qu'il va falloir...
Et vous avez 30 secondes.
Il va falloir qu'on revoie notre regard sur la politique internationale et travailler sur la résolution des conflits, et on peut le faire, aider à l'émancipation de sociétés civiles des pays de provenance. Et puis en France, il faut arrêter d'opposer les précaires. Il y a beaucoup de discussions, de débats souvent violents qui disent on a des pauvres chez nous et il faut d'abord s'en occuper. Je pense qu'il y a une volonté politique nécessaire à valoriser qui consiste à dire on peut s'occuper de la précarité des Français, mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas accueillir des migrants. C'est pas parce qu'on sauvera pas ces migrants en mer que la situation ira mieux pour les Français précaires. La solidarité, ce sera bon pour tout le monde. Aider les migrants, c'est bon aussi pour la solidarité
voilà,
des Français.
Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Jean-François Corti, le médecin du monde. Merci Corinne Thor de Médecins sans frontières et merci à Cécile Kiyenge à Strasbourg. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Ils se reconnaîtront.